Voilà, on m'a demandé aujourd'hui donc de vous entretenir sur les quelques événements passés récents de l'être doyen et les réactions de Menzingen. Donc je le fais, mais c'est un peu casse-pied parce que quand je revois, vraiment, tout a été dit depuis un bout de temps maintenant et il suffirait de remettre les articles, les lettres qu'on a pu écrire. Bon, alors on va le faire quand même parce que c'est intéressant. J'espère vous montrer comment en fait Mgr Feulet a déjà gagné, parce que aujourd'hui on ne se pose plus les bonnes questions. Donc il est impossible d'avoir la bonne réponse. Et ça c'est génial. Aujourd'hui le débat, on voit bien, vous allez le voir, a complètement, c'est insensiblement décalé. Et maintenant on est en train de se battre sur un fignolage, mais dans cet angle-là. Alors qu'on était là avant. Donc en fait, on ne parle plus du vrai sujet. On ne se pose plus les bonnes questions. Bon, ben ça veut dire que c'est fini. Intellectuellement, c'est fini. C'est une question de temps. Alors, je commence par le document donc, de Dichi du 4 avril. Où François venait de donner la faculté de confesser. Non, 4 avril, c'est... Et aussi maintenant, après avoir donné la faculté de confesser auprès de la FSSPX, maintenant il leur concède des permissions pour la célébration du mariage, dit Dichi. Eh bien, cette décision prévoit une délégation de l'ordinaire pour assister au mariage qui sera donné auprès du diocèse. Le document parle aussi, Dichi parle de la liturgie, il cite la Vetus Ordo, hein, donc ça c'est le coup de génie de Benoît XVI, voilà. Et ensuite le document parle de l'ordinaire peut concéder directement les facultés nécessaires auprès de la finalité, Saint-Pédis, voilà, donc ça c'est une citation du document romain. Mais voilà ce qui est le plus important dans ce commentaire. La fraternité Saint-Pédis remercie profondément le Saint-Père pour sa sollicitude pastorale, telle qu'elle s'exprime, à travers la lettre de la commission Ecclesia Dei, dans le but de lever, citation, les doutes quant à la validité du sacrement de mariage. On va le voir, ça fait maintenant, depuis 10 ans que ça dure, un double langage où Menzingen, les mots ont un sens. Et Menzingen dit non, nous c'est pas ce sens-là. N'empêche que Rome, qui normalement est l'autorité, Rome lui utilise le mot dans le sens courant. Donc on est dans une tromperie, dans une malhonnêteté, dans une manipulation des mots. Et donc Menzingen rassure ses troupes en disant à chaque fois, attention, nous c'est pas comme ça qu'on l'entend. Ouais, ça c'est gentil, c'est facile à dire. N'empêche que Rome qui mène la danse, lui utilise les mots dans le sens commun. Et c'est là qu'on peut vraiment, et ça fait depuis 10 ans que ça dure, le procès de l'abbé Pinault l'a prouvé noir sur blanc, on peut vraiment parler de subversion des chefs. Les subversifs, ce sont les chefs aujourd'hui de la fraternité Saint-Pédis. Alors le document donc, la fraternité Saint-Pédis remercie profondément le Saint-Père pour sa sollicitude pastorale telle qu'elle s'exprime dans la lettre de Müller. Telle qu'elle. Alors voyons cette lettre de Müller. Il s'agit de ramener la fraternité Saint-Pédis dans la pleine communion. Donc c'est la première phrase, premier paragraphe. Donc le but est clairement établi. Souvenez-vous, hein, j'ai l'impression, je suis un peu fatigué, mais ma première grande conférence que j'avais faite quand je me suis fait virer, je citais Benoît XVI qui dit, mais les évêques, calmez-vous, j'élevais l'excommunication des intégristes, mais j'ai remarqué pendant mon expérience cardinale que quand on fait un pas vers eux et qu'on les laisse réintégrer la grande communauté, leur esprit change. Donc les gars, soyez malins. Plus on va les faire revenir, plus il y aura de contact, j'ai remarqué que leur esprit rigide va changer. Il va s'amollir. C'est pour ça que je le fais. Il le dit noir sur blanc aux évêques du monde entier pour les rassurer. Et ça, on l'a complètement oublié. Je l'ai dit une fois, d'autres l'ont dit, puis évidemment, après on m'a diabolisé, Ryu est un excessif, c'est un malade, il est malheureux, il déprime, il a des problèmes dans sa vie, il nous aime pas. Non, je lis Benoît XVI qui le dit noir sur blanc. Et d'ailleurs, on n'est plus là. Si Benoît XVI déjà faisait ça, si Benoît XVI déjà faisait cela, vous croyez que François il le fait en quelle intention? Dans quelle intention? Il est bienveillant envers la fraternité Saint-Pédis? C'est risible, hein, mais c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle dit elle? Donc, pleine communion. Et ça aussi, c'est certainement une des subversions les plus criminelles de Mgr Feulet, c'est d'avoir avalisé le concept de plus ou moins communion. On est plus ou moins en communion. Ça, c'est un concept typiquement moderniste. On est en communion ou on ne l'est pas. On est en état de grâce ou on ne l'est pas. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc il y a des domaines dans la vie où il n'y a pas d'intermédiaire. On est en vie ou on est en mort. On est mort. Le courant passe ou il ne passe pas. Bon, là l'exemple n'est peut-être pas bon parce que parfois il y a une petite goutte d'eau qui peut fuir dans le robinet, d'accord. Mais vous voyez, dans le spirituel, c'est ou bien on est en communion ou on ne l'est pas. Donc le concept de pleine communion, c'est un concept œcuménique moderniste qui intègre des degrés de communion. Et Feulet a accepté ce principe, a accepté que tout le dialogue qui se passe se place dans ces circonstances modernistes. Mais ça va pourrir, ça a déjà pourri les esprits, c'est fini.
Est-ce qu'il le fait consciemment?
Ah, ça, je suis pas prophète, ni j'ai pas le curé d'Ars, ça, je sais pas. Je sais pas.
Parce que c'est inquiétant quand même.
Ah oui, mais ça, je sais pas. Je peux pas répondre. Ça dépasse mes compétences. Ensuite, le paragraphe de Müller dit, dans la même ligne pastorale, on y rappelle la concession pour les confessions, qui veut contribuer à rasséréner la conscience des fidèles, malgré la persistance objective pour le moment de la situation canonique d'illégitimité dans laquelle se trouve la fraternité Saint-Pilice. Le Saint-Père, sur proposition de la congrégation, a décidé d'autoriser les ordinaires du lieu à concéder aussi des permissions pour la célébration du mariage des fidèles qui suivent l'activité pastorale de la fraternité selon les modes suivantes. Donc ça a été omis par le comité de Dixi. Rome, c'est très clair, il parle d'une persistance objective d'illégitimité. Et là, on retrouve le concept de plus ou moins communion. Ça va pas. Si c'est légitime, c'est pécamineux, c'est hors communion. Il y a pas elle est pas, elle commence pas à être là. Elle n'existe pas. Autre paragraphe omis par Dixi, c'est à la fin du document de Müller. Certaine que de cette façon aussi, on pourra éviter les débats de conscience chez les fidèles qui adhèrent à la fraternité Saint-Pédis et les doutes sur la validité du sacrement de mariage, tout en facilitant le chemin vers la pleine régularisation institutionnelle. Cette congrégation sait qu'elle peut compter sur votre collaboration. Alors, vous voyez, il faut comprendre la propagande de la fraternité Saint-Pédis, qui est une propagande vraiment de communication et mensongère et subversive. La fraternité, depuis 10 ans, hein, au moins depuis 10 ans de manière claire, depuis de manière évidente depuis 2012, mais les plus perspicaces ont vu la chose déjà depuis l'an 2000 de manière visible. Avant c'était invisible, en 2000 c'est visible, mais seuls quelques perspicaces. Et certains, c'était des laïcs. Une fois, j'ai demandé à une famille, je faisais une conférence en 2013, et vous, depuis quand vous êtes inquiet? Réponse, depuis 98. Oh, j'ai mince. Oui, il y avait un sermon, on s'est dit là, il y a un changement de cap. Il y a un changement de ton. Ah ben, chapeau. Famille de 7 enfants, 9 enfants, en Alsace-Lorraine. Ah, je suis sidéré. Moi, j'ai rien vu avant 2012. Et eux, c'est simple, papa et maman, en 98, ils sentent la chose. Ce qu'il faut comprendre, la propagande de la fraternité Saint-Pédis, elle répond toujours à ces actions romaines qui sont concertées avec Feulet, il faut pas se rêver. Hein. C'est relisez moi préface de l'impossible réconciliation, il est bien dit qu'on ira par étapes. Donc maintenant, on avance main dans la main, et puis on va y aller par étapes, parce que ces idiots traditionnalistes, ils ont du mal à bouger. Il faut maintenant les réformater, et ça va prendre du temps. Ça prend des étapes. Alors la propagande agit de la manière suivante. Les réactions d'Itchy ou des communiqués de Menzingen agissent comme une photo, comme un acte, comme quelque chose de matériel. Et matériellement, la photo est bonne, disent-ils. On a une avancée. Ils ont concédé quelque chose, vous voyez. Maintenant ils nous reconnaissent ceci, maintenant ils nous reconnaissent cela, vous voyez, mais c'est figé, C'est matériel, c'est une photo. Alors qu'il faudrait montrer les choses, non pas sous forme de photo, mais de film. Le mouvement, et surtout la direction que ça prend. Et donc, ils trompent les gens en disant, attention, on n'a rien signé, il ne se passe rien pour l'instant, on n'a pas changé. Ils ont juste concédé cela. Photo. Hein, c'est pas ça. Parce que tous les documents disent, attention, c'est une étape vers la pleine réconciliation, la pleine communion, et qu'il va falloir, et Vatican II, tout ça. Donc il y a tromperie sur la marchandise. C'est une communication mensongère. Comme les grands médias, ils omettent ce qui les gêne. Donc on ment par omission. C'est malhonnête, c'est subversif, c'est mensonger. Et de ça, les champions, c'est Thouvenot, c'est Laurence, c'est la bande, hein, j'y dis pas rien, hein, c'est eux les responsables. Ensuite, quelques réflexions que je tire principalement la Berrois, cet intelligent confrère au Canada, et je rajouterai quelques petites remarques à moi. Il analysait donc ce document. À la lecture du document, Rome prend des mesures pour que les mariages célébrés dans le cadre de l'apostolat de la finalité puissent être reconnus par l'Église conciliaire. Apparemment, rien de plus. Il y a une mesure ordinaire et une mesure extraordinaire, hein. Soit juridiction par un prêtre du diocèse, soit directement auprès de la finalité Saint-Pilice. Tout d'abord, il faut aussi remarquer le doute. Donc Rome parle d'un doute objectif pour les mariages. Et la finalité Saint-Pilice dit, attention, ce doute-là, il est subjectif. Objectivement, il n'y en a pas. Donc là, on est sur le double langage, sur le dialogue de Sceaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, Rome parle d'un doute objectif qui concerne les mariages, la validité des mariages célébrés dans le cadre de la finalité Saint-Pilice. Et ce doute est donc reconnu par les deux parties. Rome dit doute objectif, fraternité dit oui, il y avait un doute subjectif. Vous voyez donc comment ils s'entendent sur un mot dont la vraie force vient du document romain. Et la réaction de la fraternité est juste pour calmer les inquiétudes. Mais on ne change rien au cap. On avale tout, on accepte tout. Ça fait 10 ans qu'on dit merci, merci, merci et encore merci. Donc ils ont dit merci parce que ça va rasséréner la conscience des fidèles. Voilà. On va lever les doutes. Ça lève les doutes. Et alors ça, je vais peut-être le dire maintenant, mais... lisons le maintenant. Pour ça, quand un confrère me dit qu'il est inquiet en 2017, bon, ben, tant mieux, vaut mieux tard que jamais. Mais enfin, ça fait quand même tard, hein. Alors, la messe bâtarde, hein, qui est aussi sainte que la messe catholique, hein, la messe Paul VI, elle est aussi sainte que la messe Saint-Pie V, la messe Paul VI, la messe bâtarde protestantisée, c'est le rite ordinaire du rite romain, tandis que la messe catholique, c'est tout à fait extraordinaire, c'est pour une curiosité zoologique. Voilà. Donc voilà le document de Benoît XVI. Réponse de la fin de Saint-Pilice. Benoît XVI a rétabli dans ses droits la messe tridentine. Et la fraternité se réjouit de voir l'Église retrouver sa tradition liturgique. Et elle remercie, elle exprime au pontife romain sa vive gratitude pour ce grand bienfait spirituel. Ça, c'est 2007. Vous voyez, c'est même logique. Je te tiens, tu me tiens, par là-bas, Michel. Et je dis un truc, mais moi j'en dis un autre. Mais j'en dis un autre pour mes troupes. Oui. Mais en fait, je te suis puisque je te considère comme mon chef, puisque je te demande de régulariser. Donc je te suis. Mais à cause des troupes, je vais dire des choses qui sont fausses. Ça c'est 2007. 2009, les excommunications. Donc souvenez-vous, on l'a eu... attention, on veut pas une levée, on veut un retrait, parce qu'on a toujours contesté la validité des excommunications, vous vous souvenez le petit refrain. Et là, pareil, il y a une levée. Donc un acte de miséricorde, c'est pas un acte de justice qu'on a eu. Or, on avait donné comme condition, pour aller plus loin, un acte de justice. Donc, les conditions étaient de la poudre aux yeux, on l'a pas fait, on a menti à nos troupes, et une fois qu'on a eu le fait accompli, on l'a justifié par un autre mensonge. Nous exprimons, dit la Trinité Sapientiste en 2009, nous exprimons notre gratitude filiale au Saint-Père pour cet acte. Voilà. Cet acte de miséricorde. Ah là là. Ensuite, 2012, il y a eu un quick. Hein. Mais après, on se ressaisit. 2015, c'est les confessions. Donc, et là encore, au cours de l'année de la miséricorde qui fête les 50 ans de Vatican II, la fraternité pourra recevoir une absolution valide et licite de leurs péchés chez la fraternité sapientiste. Ce qui sous-entend, bien sûr, qu'avant, c'était illicite et invalide. Puisque vous savez que le sacrement de l'ordre est un sacrement de confession, il est soumis à la juridiction. Eh bien, que fait la Trinité Sapientiste ? Elle exprime sa reconnaissance au souverain pontife pour ce geste paternel. Et bien sûr, après on va rappeler pour les troupes, mais bien sûr, nous, on a toujours été indépendants de cela et on pourra continuer. Ouais, vas-y, tire tes bretelles, mon gars, en attendant, tu te couches, et tu vas encore te coucher, parce que c'est ta logique, parce que tu le veux. Parce que Felet l'a dit, il faut y arriver. Il y a un but à atteindre, il y a un cap, on y arrivera. Il disait à Bête 4 en 2012, il y aura de la casse. Il y aura de la casse. On passera sur ton cadavre, on passera sur les cadavres. Ils l'ont pas dit comme ça, bien sûr, mais c'était ça que ça voulait dire. Alors, la solution proposée est que les mariages des fidèles de la fraternité seront désormais célébrés par les prêtres conciliaires ou ralliés. Ça, c'est le principe qui est donné par le document de Müller. Les prêtres de la fraternité Saint-Pédis ne célébreront plus les mariages de leurs fidèles, mais se contenteront de célébrer la messe votive. Donc, ça aussi, c'est habituer les mentalités à la soumission à l'art moderniste. C'est évident. Et même si c'est vrai que dans les faits, ça ne se passera pas comme ça. Le principe est toujours plus important que le fait. Le principe, il est posé. Et donc, ça habitue les mentalités à l'accord, à la soumission. Et oui, c'est l'autorité. Il faut se soumettre. Ils ont ça à la bouche, obéissance. Obéissance. Et ils vont faire, bien sûr. Ils le disent, ils le prêchent. Ils vont faire ce qu'ils prêchent. Ils vont obéir. Ils vont se soumettre. Et donc, on habitue les gens. Le principe, il est posé. C'est le prêtre conciliaire qui peut légalement reconnaître les mariages des fidèles de la fraternité Sapientiste. Ensuite, autre remarque. Aucun fidèle ne pourra donc désormais refuser d'échanger son contentement perpétuel avec son époux ou épouse devant un prêtre conciliaire ou rallié et de recevoir sa bénédiction. Aucun prêtre, puisque le principe est posé, aucun prêtre de la fraternité ne peut pas, en principe, s'opposer à la présence du dit prêtre conciliaire ou rallié pour bénir le mariage, sans que le mariage célébré ne soit certainement invalide aux yeux de Rome et de Menzingen. Il y a le piège. C'est que là, ils ont cloué les becs. Ils ont cloué le bec. Parce que s'ils refusaient en principe le prêtre conciliaire, c'est être schismatique. Et c'est être, le mariage sera invalide aux yeux des deux. La fraternité accepte cette invalidité. Si elle, de principe. Hein. Et quand on lit ça, vous voyez, ça fait pitié d'entendre des gens dire encore « mais il n'y a rien de signé ». Mais on attend la signature, parce que ce jour-là, là on bougera. Mais tous les principes sont posés. Ça n'a aucun sens, cette signature. Ensuite, remarquons la cohabitation des prêtres fidèles et des prêtres infidèles. Parce que c'est ça qu'il faut dire, voyez, conciliaire, moyen. Il y a des prêtres fidèles à la doctrine catholique, il y a des prêtres infidèles. Vous voyez comment on ne pose plus les bonnes questions, on n'utilise plus les bons mots. Et c'est capital, parce que le mot est une pensée, et donc s'il n'y a plus le bon mot, la pensée est hors sujet. Car, on revient, il n'y a pas de plus ou moins communion. Ou on est fidèle, ou on est infidèle. Donc, les documents récents, avalisé par Menzingen, consacre cette cohabitation de principe. Et on sait ce que produit la cohabitation. Souvenez-vous, je n'ai plus les documents, mais je les ai cités dans les conférences, peut-être dans Monseigneur Lefebvre, une des raisons qu'il lui avait dit qu'il fallait sacrer des évêques et qu'il fallait éviter, une des raisons pour lesquelles il fallait éviter un accord, c'était pas la plus importante, la plus profonde, mais elle concerne notre sujet, c'est que une fois qu'il y aurait un accord, il y aurait une illégalité. Les gens qui seraient chrétiens traditionnels de Verny, mais en rien doctrinaux, vont bien sûr être attirés par la tenue de la liturgie, et donc il y aura une cohabitation entre les libéraux, c'est le terme même de Mgr Lefebvre, cohabitation entre les libéraux et puis les traditionnalistes, qui va être, dans ce mélange-là, qui va être corrompu. Vous savez très bien que ça va être les traditionnalistes, parce que c'est la pente naturelle de du péché. Les tradis vont suivre les libéraux, c'est cousu de fil blanc. Donc là, le principe est posé aussi, il est consacré. On va cohabiter. Donc, ça manifeste bien la corruption de la fraternité Saint-Pédis qui accepte par principe ce mélange et cette promiscuité, qui n'y voit plus aucun danger. Ça montre bien qu'on a lâché, on a jeté l'éponge, le combat a cessé. Voilà. La cohabitation conduira inéluctablement, lentement mais sûrement, et peut-être même rapidement, je rajoute, à une diminution de l'opposition des fidèles et de leurs prêtres aux erreurs conciliaires. Ça, le misérable abbé Cellier l'avait écrit en noir sur blanc dans l'Église déchirée, son petit fascicule, je cite, je crois, là-dedans. Il le dit. Pourquoi vous ralliez, vous vous taisez? Pourquoi? Parce que vous avez engagé un dialogue, donc nécessairement, c'est logique, c'est inéluctable. Vous avez fait vous-même une autocensure. Il le dit noir sur blanc. Alors ces nouvelles vont mettre ces pratiques-là vont mettre un bazar, hein, c'était évident. Et ce bazar est voulu par Rome. C'est pas du tout une concession de Rome, c'est pas une défaite de Rome, c'est la logique de Benoît XVI. Oui. Multipliant les contacts, la cohabitation, et puis leur esprit va changer. Et les quelques énervés, ben on va les repérer très vite, on les coupera la tête. Et surtout, ça crée la suite, ce bazar, cette inadéquation entre les principes et les faits vont obliger à trouver une solution paisible et donc va rendre nécessaire la prélature. Ça rend nécessaire la prélature parce que là c'est trop compliqué, ça va être désordonné, ça va être source de conflits, de bazar. Hein, non, donc ben, il faut clarifier tout ça. Il faut la prélature. C'est la prélature qui va entre guillemets enlever ces inconvénients là. Oui, mais en cadenassant définitivement le problème. Donc tout ça, ça pousse naturellement à trouver la solution dans la prélature. Ça la rend désirable. Et d'autant plus qu'on n'attend que le tampon. Donc c'est pas grand-chose. Alors, on remarque toujours ce conflit de l'abbé Roy, et qui sont très importantes et qui montrent bien le changement de cap. Les faux problèmes les vrais problèmes ne sont plus abordés. C'est un problème de juridiction. Nous sommes face à un problème de juridiction. Il y a que deux positions face à ce problème-là. Quelle est la juridiction de Rome? C'est là le gros problème de la crise. Elle est là. Hein. Le coup de maître de Satan. La perversion par l'obéissance, tout ça, hein, ces conférences de Mgr Lefebvre, vous les connaissez bien. Et aussi, plus profondément encore, tout le problème du sévacantisme ou de non-sévacantisme. Le nœud de ce problème-là, c'est quelle est la juridiction réelle aujourd'hui de Rome. C'est ça le vrai problème. Et c'est d'ailleurs ça qui pose la... Alors, on dit, je de droit ou de fait, on constate qu'ils n'ont plus l'autorité. Si on n'accepte au moins pas ça, c'est qu'on n'a rien compris à la crise de l'Église. C'est-à-dire qu'on est déjà rallié dans sa tête. Et c'est ça, justement, qui va être complètement évacué. Ou bien la juridiction accordée par la Rome actuelle ne fait pas l'ombre d'un doute. Et dans ce cas, il n'y a aucune raison de refuser les mesures romaines prises pour les mariages, prises pour les confessions et prises demain pour une prélature. Si on dit que aujourd'hui François a la pleine juridiction Ben, il n'y a aucune raison de refuser ce qu'il propose, en effet. Aucune. Mais, ou bien au contraire, on considère que la juridiction accordée par la Rome actuelle est au minimum, il y a un minimum. Après, il y a des opinions différentes dans l'explication théologique, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, au minimum, elle est au moins douteuse, puisqu'il s'agit d'une juridiction d'une Rome qui est dans l'apostasie. Et ça, c'est du factuel. Hein, Luther au Vatican, voilà, c'est du factuel. Donc, et que les apostats ne peuvent pas être le canal d'une juridiction valide et efficace. Donc on a au moins un doute sur cela. Si on ne l'a plus, c'est fini. Hein. Et justement, Felet ne l'a plus le doute. C'est pour ça que c'est fini dans sa tête depuis longtemps. Dans ce cas, non seulement pouvons-nous sans aucun risque de schisme mépriser totalement ces juridictions, n'en tenir aucun compte, et même refuser si elle nous est offerte, mais encore nous en avons le devoir de le faire. Bon. Non seulement, sans ce doute-là, non seulement on peut, sans schisme, refuser ces propositions, cette juridiction, mais on l'a de voir. Parce que, et encore, qui est schismatique? Mais c'est Vatican II, relisez-les. Il y a des centaines de conférences qui ont été faites. C'est Vatican II qui est schismatique. Donc, recevoir une juridiction de ceux qui propagent un Vatican II schismatique, ben, on a le devoir de refuser cette juridiction ou cette reconnaissance. On ne va pas être reconnu catholique par des gens qui n'ont pas la foi catholique. Ça n'a pas de sens. Mais ça, on ne pose plus ces questions-là. Parce qu'il est posé, c'est y répondre. Donc on ne les pose plus. Maintenant, on discute autre chose en disant, on discute sur la prudence à faire la prélature. Sur la justice qu'on aurait à être reconnu de nouveau. Mais c'est des fausses questions, c'est des faux problèmes, ça. Et il cite ce que je citais avant lui et ce que d'autres ont cité avant moi, cette fameuse conclusion qui pour moi est un minimum non négociable du cardinal Cajetan et qui résout pour moi pratiquement tous les problèmes théologiques de ces des vacances du siège avec toutes les degrés d'opinion de tout cela jusque cette conclusion de Cajetan est la suivante: si quelqu'un pour un motif raisonnable tient pour suspecte la personne du pape et refuse sa présence et même sa juridiction, il ne commet pas de délit de schisme ni n'importe quel autre, pourvu qu'il soit prêt à accepter le pape s'il n'était pas suspect. Il va de soi qu'on a le droit d'éviter ce qui est dommageable et de prévenir les dangers. Bon, celui qui me dit que François n'est pas suspect, ok, je m'en vais et je vais aller me baigner dans le fleuve.
Donc, selon vous, il est suspect, mais c'est le successeur de Pierre.
Alors, comme vous le dites bien, c'est selon moi. Donc, selon moi, c'est mon opinion, une de plus. Je pense qu'il est celui qui devrait être pape, mais qu'en raison de ses péchés et de ses hérésies, il a perdu son autorité. Ses actes sont nuls de droit pour moi. Voilà.
Le siège n'est pas vacant, mais...
Ah, dans ce sens-là, il n'est pas matériel. Il est matériellement occupé par celui qu'il devrait l'occuper, mais il est formellement vacant. C'est mon opinion. Vous en faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Je continue. Il est par conséquent absolument indispensable que soit posé ce principe d'un doute très sérieux sur la validité de la juridiction de la Rome actuelle. Et ça, Felet l'a éclaté. C'est l'Église sainte, une et apostolique. Enfin, souvenez-vous de ses sermons délirants. Dans sa tête, c'est très clair. Et donc, pour lui, il n'y a pas le choix. C'est évident. Et les confrères sont dans une... Ils n'ont pas compris cela. Sans ce doute sérieux, refuser une juridiction de la Rome moderniste ne peut en effet qu'être schismatique et relève en définitive de la prudence purement humaine plutôt que surnaturelle. Et voilà. Et là, alors c'est ce que j'explique dans mon livre, Monseigneur Felet n'est absolument pas, bien sûr, comparable à Monseigneur Lefebvre, formellement. Mais il est indéniable que Monseigneur Felet peut s'appuyer matériellement sur des hésitations et des ambiguïtés qui avaient été posées ponctuellement par Monseigneur Lefebvre. Et il en profite, parce que certains textes lui donnent raison. Et alors je résume en un instant, mais en 87, Monseigneur Lefebvre a le discours en disant « À Rome, c'est l'antéchrist, c'est l'apostasie qui règne, ils ont perdu la foi, c'est sûr, c'est certain, ils sont hors de l'Église. » Et puis 6 mois plus tard, il va signer, qu'on le veuille ou non, pas longtemps, c'est vrai, mais il a signé. Et il faut avoir le courage de dire « Non, ça c'est gravement incohérent. » Alors, je ne pense pas qu'il ait fait une faute grave, parce que les circonstances, la situation unique dans laquelle il vivait, il y a plein de choses à décharge, notamment sa réaction rapide 48 heures après. C'est à décharge tout ça. Mais attention, il a posé un acte qui était pour moi gravement fautif, objectivement, gravement incohérent. Il y a 6 mois, tu nous les décris comme des fous furieux, et 6 mois après, tu vas quand même trouver une manière de faire un accord. Non ? Et Mgr Felet joue de ça. Il rabâche cela. Parce que, là encore, c'est des clashs qui font des photos. Mgr Lefebvre, c'est un film. Ça commence avec Vatican II, ça continue avec « Je sors le sabre et maintenant je perce les modernistes ». Et puis, à cause d'un piège de Jean-Paul II, il est tout seul. Enfin, faut quand même se mettre dans les circonstances. Bon, on va peut-être essayer de sauver les meubles, et puis un accord pourrait être bien. Il espère qu'on va arriver à quelque chose pour le bien commun, pour le bien de l'ensemble. Puis ensuite, le film continue. Il essaye, il se trompe, il dit j'ai été trop loin. C'est quand même la seule fois. Alors il aurait dû faire mieux comme réparation, mais enfin, il a quand même dit j'étais trop loin. Bah, trop loin, c'est trop loin. Et ensuite, c'est 88, c'est les sacres. Puis ensuite, sans changer vraiment ses principes directeurs qui peuvent être discutés, en tout cas, son langage pratiquement se durcit, c'est évident. Hein, pour en finir avec, c'est un devoir dans son itinéraire spirituel, dernier livre, c'est un devoir pour tout prêtre et fidèle qui veut demeurer catholique de se séparer de cette imposture de conciliaire. C'est un devoir d'être séparé d'eux. Hein, j'ai plus la phrase exacte, mais vous voyez à laquelle je fais allusion. C'est un devoir d'être séparé. Et Felet dit, on a un devoir en tant que catholique, de s'unir. Donc pareil. Donc on n'est plus sur une ligne de crête. C'était le terme cher à Felet, et on est en pleine chute libre. Et comme dit Héberois, en chute libre, le plaisir dure bien peu de temps. Il concluait ceci. Ce document romain devrait ouvrir les yeux des aveugles. Et là, je lui dis non, les aveugles, ils verront rien. Ils sont aveugles. C'est un châtiment. C'est un châtiment. Faut pas rêver. Ce que nous voyons, les autres ne le voient pas. Pourtant c'est visible. Qu'est-ce que nous refusons? Une signature? Un document officiel établissant une prélature? Non. Nous refusons d'être mis sous la juridiction douteuse. Il est vraiment au minimum. Et là, il cite ce que tous les six moulins en tête avaient signé en 88, le document. Ils ont excommunié par les monanistes. Très bien, merci, ça nous fait plaisir et on n'attendait pas mieux. Et il disait, le document, nous refusons cette union avec cette contrefaçon d'église évolutive, pentecôtiste et syncrétiste. C'était un devoir pour eux, disait-il. Donc c'était tous les têtes pensantes, l'autorité de la vérité à l'époque disait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, François et les modernistes ne sont pas dans une logique syncrétiste, pentecôtiste, évolutive et une contrefaçon? Qu'est-ce qui a changé? Ce que j'écrivais à l'abbé Simoulin, vous, c'est vous qui avez changé, c'est pas Rome, c'est vous. Et cette trahison de la tête, des têtes pensantes de la fraternité Saint-Pédis, elle est marquée noir sur blanc pour un prêtre, il le sait, dans le Corunum de mars 2012. C'est celui, moi, qui m'a fait réagir. Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais plus un chef qui avait ses défauts, un chef qui peut se tromper, un chef qui fait ce qu'il peut, mais qui... Non, non, ce jour-là, il était marqué noir sur blanc que je n'avais plus en face de moi un mauvais chef. Parce qu'un mauvais chef, ben, ça reste le chef. Je n'avais plus un mauvais chef, j'avais un traître. J'avais un traître. Un traître, on lui tire une balle dans la tête. Alors je l'ai fait avec une lettre. Elle s'appelle « Lettre à Monseigneur Felet » du 28 février 2013. Et ils ont bien compris que je le visais. Ensuite, passons chronologie. Un document intéressant qui n'est pas signé, mais qui a été... Si, si, c'est un communiqué de la Maison Générale. Voilà. Donc ce sont des réflexions... Non, 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 attendez, que je ne dise pas de bêtises. Non, non, non. Donc c'est bien des réflexions de Nietzsche. Voilà. C'est quand même... Donc source, c'est Maison Générale quand même. Nietzsche. Sur... voilà. C'est effrayant. Ça date donc de... Avant les doyens, hein. 11 avril. Alors ils disent toujours pareil, la situation de la crise que traverse l'Église est malheureusement toujours la même. Hein, on est toujours dans la même crise de l'Église. La persécution mais qui privait injustement les prêtres et les fidèles de la juridiction ordinaire a cessé dès lors qu'elle a été conférée par le souverain pontife. Donc là, ils vont faire un grand écart qui, comme il dit, la chute libre, ça ne dure pas indéfiniment. Hein. Il faut un grand écart, mais il y a des limites physiques. Grand écart, c'est dire, attention, la crise, elle continue, elle augmente même. Souvenez-moi, en 2012, Felet disait pas ça, hein. Il disait que la crise, elle était en train de elle connaissait une baisse parce qu'à Rome, on commençait à réagir. Enfin, donc là, ils disent, toujours pareil pour le discours des fidèles, la crise continue, elle est très grave, mais sur un point, photo, sur un point, on a la juridiction ordinaire qui a été donnée par le souverain pontife, donc point à la ligne. Donc on passe par les bonnes questions. Est-ce qu'il a la foi et est-ce qu'il a l'autorité? Ça, c'est des questions-là, on les considère comme étant déjà résolues. Tout un chacun pourra apprécier... Tout un chacun pourra apprécier l'habilité qui consiste à donner les pouvoirs de confesser ou de recevoir les consentements matrimoniaux, autrement dit, à régulariser au moins ad casum, au cas, le ministère des prêtres d'une société ecclésiastique irrégulière. Donc les gars, ils font de l'humour. Ils font de l'humour sur Müller en disant, bon, les gars, vous avez regardé Müller, la conséquence, il est en train de nous régulariser un cas en disant que nous sommes une société irrégulière. L'idiot. Mais c'est effrayant parce que tout ce contexte-là est placé justement pour aller à cette société régulière. Donc tout est fait pour la régularisation. Et oui, ils s'en moquent. C'est mesquin. Les traites finiront mal. Hein. J'aimerais bien voir dans 10-15 ans où seront les Thouvenot, les Felet, les Nelly, les Laurence. Ça va pas être beau, à mon avis.
C'est la Salette. Nous sommes dans la Salette.
Oui, on est en Fatima, dans Lourdes et dans la Salette. Ça, c'est clair.
Ça, hein, on y est en plein.
Désormais, de même qu'il n'est plus besoin de recourir à, donc c'est le document, hein, à une juridiction extraordinaire pour confesser validement, il n'est plus besoin. Donc ils acceptent, hein, et c'est fini. Hein. Il n'est plus besoin de recourir à l'état de nécessité pour recourir validement au consentement, à moins que l'évêque ne s'y oppose et qu'il refuse la dégradation voulue par le pape. Mais cela ne veut pas dire que l'état de grave nécessité a cessé, mais que les autorités de l'Église ne refusent plus la tradition quelques moyens de se développer. Et donc vous avez bien... vous froncez des sourcils et c'est bon signe. Ils sont en train de dire qu'il n'y a plus besoin de l'état de nécessité pour recevoir ni la confession ni le mariage, mais ça ne veut pas dire que l'état de nécessité a cessé. Au contraire. Bon, là, on joue avec les mots, hein. Et avec là, quand on en est là, on peut pas rien faire. Ça sert à rien. Bon, ensuite, il cite le canon. Qui le canon donc du 1098 qui a justement sur lequel on a fait tous les mariages et on les fera encore, c'est ce que je fais encore. S'il n'est pas possible d'aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, eh bien deux témoins et un prêtre suffisent. Voilà. Donc ça, ok. Je passe, pas plus important. Alors, l'état de nécessité demeure dans l'Église et il ne s'agit pas d'en nier la terrible réalité. Mais ce ne sont que des mots parce qu'ils n'en tirent pas les conséquences. Si la réalité est terrible, on fait comme ce que dit l'abbé Roy ou l'abbé Cachetan, on se sépare. Trop dangereux. Si c'est si terrible que ça, oh là là, t'as une maladie, hein, elle est terrible. Faut juste pas te toucher, hein. Allez, j'embrasse. C'est quoi cette. Où est la cohérence? En effet, depuis le Concile Vatican II, et surtout, dit le document, le nouveau code de droit canonique de 83, la fin primaire du mariage, qui est la procréation et l'éducation des enfants, a été rabaissée par rapport au soutien mutuel des époux. Dans une conception personnaliste de la dignité, de l'amour, qui estompe le primat du bien commun de cette société qu'est la famille. Et là, ça, on l'a encore, on glose, mais ça pose des problèmes énormes. Comment est-ce que le droit de l'Église universelle peut inverser les fins du mariage sans poser un problème sur l'autorité qui l'a créée, qui était Jean-Paul II? On ne veut pas. Et ça, ça vient d'une faiblesse de Mgr Lefebvre, qui est compréhensible à son temps. C'est pas, je dois tout et je le cite, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer des choses en tant qu'historien, je dirais simplement, même pas en tant que théologien. Monseigneur Lefebvre, lui, a mis de côté ce problème-là, parce qu'il était énorme, parce qu'il était difficile à résoudre. Et il l'a résolu de manière purement pratique. Mais ce problème, il est le problème capital qu'il faut traiter d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas définitivement le mettre de côté, parce qu'il revient constamment, c'est inévitable. Donc, il faut le résoudre au minimum comme Cachetan l'a fait. J'ai le droit de refuser, sans être schismatique, la personne suspecte du pape. Voilà. C'est ce que disait Monseigneur, qui commence par rectifier la foi, qui commence par... condamner Vatican II et approuver ce qu'ont fait leurs prédécesseurs, et à ce moment-là, la suspicion va disparaître. Et là, il n'y a pas besoin d'un communiqué de Menzingen pour le savoir. Hein. On le verra tout de suite, ça. Ensuite, il rajoute une couche pour dire que l'état de nécessité, c'est grave ce qui se passe. Il y a eu le synode sur la famille avec des déclarations scandaleuses des prélats et sur les concubins, sur les homosexuels. Troisième argument pour dire que c'est très grave ce qui se passe, c'est le motu proprio de François qui facilite l'unité des mariages, le divorce catholique. Et enfin, l'exhortation apostolique Amoreis Laetitia de François, là il y a au moins une hérésie hein, formelle. Mais pourquoi il veut absolument, pourquoi il faut que cette hérétique-là nous dise qu'on est catholique? Ça nous rajoute quoi? Alors pour toutes ces raisons, les fidèles se trouvent dans une situation de nécessité qui leur permet de recourir auprès de la tradition. En vertu, donc, du canon qu'on a cité. Et là, il fait encore de l'humour. Il dit, mais, grâce au document, on a quand même quelque chose d'ordinaire, là. Et un évêque qui refuserait cela, du diocèse, eh bien, s'opposerait manifestement à la volonté du chef suprême de l'Église. Ouais. Donc, l'évêque qui refuse de recevoir nos mariages, eh bien, c'est un désobéissant. Il n'est pas bon. Mais c'est ridicule, parce que la fraternité, elle s'oppose au chef suprême de l'Église depuis combien de temps et encore maintenant sur plus d'un point. Et ils viennent faire la morale à un évêque qui refuserait de la délégation parce que ce serait un désobéissant. Il est également à souhaiter, dit le document, que les tribunaux ecclésiastiques ne puissent plus prononcer des annulations pour vice de forme canonique des mariages célébrés dans la tradition. en faisant cesser ce scandale que la rote romaine tolère depuis trop longtemps, le pape procure un grand bien. Ça, c'est vraiment malhonnête. Donc l'argument est le suivant. Ce document est magnifique parce que maintenant on a les délégations. Donc maintenant on a la forme canonique ordinaire. Donc maintenant la rote romaine ne pourra plus casser, ce qu'ils font régulièrement, les mariages de deux tradis. Au prétexte qu'il n'y a pas, ça n'a pas été fait devant le curé, qu'il n'y a pas eu de délégation. Donc ils disent, la méchante rote romaine fait n'importe quoi, mais le gentil super François est venu et il va empêcher maintenant ce scandale misérable de continuer. D'abord, le chef de la rote romaine, c'est François. Bon. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, ça n'a aucun sens. Et surtout, ce scandale, là encore, on pose, il est pas là, le scandale. Oui, il y a quelque chose de scandaleux, bien sûr, d'annuler un vrai mariage. Mais c'est pourquoi la rote romaine annulait ses mariages? Parce qu'il ne reconnaissait pas l'état de nécessité. Pourquoi est-ce qu'il ne reconnaissait pas l'état de nécessité? Parce qu'il niait les faits qu'il y a eu une révolution en 1962. Vous voyez, on ne pose plus ces choses-là. Oui ou non, y a-t-il eu une révolution conciliaire? Oui. Dans ce cas, tout s'enchaîne. Il y a été nécessité, et donc leur autorité devient nulle, puisqu'ils démolissent la foi, et nous, on survit avec les droits canons. Donc, on ne pose plus les vraies questions, c'est terrible. Donc, on ne peut plus bien répondre. Et ce qui est grave encore dans ce paragraphe, ce qui manifeste l'état d'esprit, c'est que ils disent, François a fait un grand bien, il y a un scandale de moins, et puis il y a un avantage de plus pour nous, la légalité, vous voyez, on est maintenant sur l'avantage de la légalité. Mais avant l'avantage d'une légalité, il y a un devoir de fidélité, du combat de la foi. Et ça, c'est hors sujet aujourd'hui. Ça n'apparaît plus. On a un devoir de jeter l'anathème sur ceux qui démolissent la foi. Et ça, aujourd'hui, ce devoir-là n'apparaît plus. Donc ils le disent, François veut seulement que les ordinaires donnent délégation auprès de la fraternité. Sa démarche est essentiellement juridique. Or, souvenez-vous, en 2009, on disait, il n'y aura pas d'accord pratique avant un accord doctrinal. Et aujourd'hui, on se satisfait d'actions ponctuelles qui sont simplement juridiques. Donc on est en train de nier notre combat. Il n'y a plus de combat de la foi. Pas besoin de signature, même avant le tampon, même avant la signature, le combat de la foi, il y a encore des mots certains, attention, je parle de manière officielle, hein, des tel ou tel prêtre, lui, peut encore le mener de manière intelligente. Mais de manière officielle dans les documents de Menzingen, le combat de la foi n'apparaît plus. Ou c'est juste de manière verbale, mais pas de manière conséquente. Bon, finissons rapidement. Je passe sur le document donc, que vous avez lu, que vous connaissez des sept doyens. Je fais juste une remarque. Donc, d'abord, positif et négatif. Positif, il est évident que ce document manifestait quand même un certain courage. Il a été fait de manière habile, d'une certaine manière aussi un peu hiérarchique. C'est les supérieurs des communautés, ce sont les doyens. Donc, ça représente quelque chose de... en communication, c'était très bon, et ce document était très bon parce que justement, il cassait le silence, il brisait aussi la logique mensongère de la communication habituelle de la fraternité Saint-Pie-X. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire pour une communication mensongère, de montrer le mensonge. Donc le document, et la réaction a été violente de Menzingen, montre que le document a été bon, globalement, positif. À réveiller des consciences, Maintenant, je lui trouve trois points faibles. La première, c'est qu'on sent dans le style qu'ils ont peur de leur action. D'ailleurs, ça manifeste psychologiquement une faiblesse. Dont j'ai eu confirmation par la suite, avec contact avec des confrères. Ils l'ont fait, ils sont encore, on est face à un mauvais chef, mais c'est notre chef. Voyez. Et ça, ça ne pourra pas aller bien loin. Et ils l'ont fait dans une optique de faire une pression pour le futur chapitre, pour que les capitulants comprennent que la masse, une masse n'est pas contente, qu'il faut changer de tête et donc changer de cap. Et là, ils s'illusionnent, mais alors complètement. Donc, donc ça se sentait. On voulait. Donc le témoignage était bon, mais il y avait une certaine faiblesse. Et de fait, Menzinger a tapé fort parce qu'il devait sentir qu'il n'y aurait pas. Il fallait calmer, quoi. Il fallait montrer qui est le chef, en effet. Puisque je suis votre chef, ben je vais te montrer qui je suis. Voilà. Ensuite, autre point faible. Ils sont à la logique de l'Athénée Saint-Pédis, sur ce point de vue-là, malheureusement. Ils citent aussi bien à égalité l'Ancien et le Nouveau Code. Ça, c'est très dangereux. C'est très mauvais. Et troisième point négatif, c'est qu'ils acceptent, alors au moins ad hominem, mais ils acceptent quand même le principe d'une reconnaissance telle que nous sommes. Pour montrer que, en fait, on ne reconnaît pas telle que nous sommes, puisque à Rome, ils sont pas honnêtes. Donc vous voyez, mais c'est très dangereux, et c'est très, ce qui veut dire que le concept inventé par Mgr Felet a été avalisé dans le document. Alors, ça n'apparaît qu'une ligne, c'est pas l'atmosphère qui en respire, c'est vrai, mais il y a une petite faiblesse là, me semble-t-il. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la réaction foudroyante et stupide de l'abbé Bouchacourt. Il faut quand même la relire. Ce matin, donc c'est la lettre à tous les confrères de la Fraternité Saint-Pédis. Ce matin, vous avez dû recevoir ou lu sur Internet une déclaration signée par sept doyens et les supérieurs capucins, bénédictins et pères de Mérigny. Je condamne et réprouve totalement et fermement la façon subversive par laquelle cette déclaration a été diffusée. Attendez. Les bénédictins, les capucins et Mérigny, en quoi c'est subversif de dire aux fidèles, voilà ce qu'on pense, où est le problème? Vous voyez, les gars, ils se rendent même plus compte, ils sont dans un abus de pouvoir continuel. Ce concept de fraternité, prélature, on est les chefs, c'est les évêques, on a une juridiction ordinaire sur tout le monde, mais ils s'en rendent plus compte, mais on ne pose plus les vrais problèmes. Mais dégage, tu n'es pas mon chef, t'as rien à me dire. J'écris aux fidèles de la tradition quand je veux, où je veux. Je suis le supérieur des bénédictins, j'ai rien à voir avec toi. Préparé dans le secret, entre quelques confrères sélectionnés, bah oui, ton pas choisi, et ça on comprend, hein, dans le but de surprendre et de déstabiliser et de placer les supérieurs devant le fait accompli. Vous voyez, inversion accusatoire. Déstabiliser. Qui est-ce qui déstabilise la tradition depuis 10 ans maintenant? Ça s'appelle Felet, hein. C'est pas les doyens. Et toujours pareil, moi on m'avait accusé de vouloir le mal de la fraternité, de vouloir détruire la fraternité. Alors j'avais répondu à Touvenot et mon gars, j'ai fait devant notaire une donation complète de tous mes biens en cas de mort à la fraternité Saint-Pédis. Donc dans le genre, vouloir détruire la fraternité, bon, bien sûr j'ai changé mon testament maintenant. Hein. Mais à l'époque, faut arrêter. Mon testament était en faveur de la fraternité Saint-Pédis. Je fais une lettre à Felet et on me dit non, son but c'est de détruire la fraternité Saint-Pédis. On est dans la communication, c'est tout. Elle prend les fidèles en otage et les constitue juges des prêtres et des supérieurs. Donc il ne faut plus juger, il ne faut plus réfléchir. Ça c'est très important pour être un bon fidèle, ne pas réfléchir. Les auteurs de cette déclaration veulent imposer avec précipitation, comme seul juste et possible, leur interprétation de la lettre du cardinal Müller sur nos mariages. Persuadés que de leur bon droit, ils n'ont pas eu la prudence de soumettre leur texte à leurs supérieurs. Mais attends, je vous ai lu ce qu'ils en pensent, les supérieurs. Pourquoi leur soumettre un texte? Ça n'a aucun sens. Mais ils n'ont pas été assez loin. Parce que justement, ils sont restés dans la logique du chef. Et de même que ce que la fraternité, ce qui la piège, vous expliquait par rapport à François et à Rome, vous n'êtes pas l'autorité. Ou en tout cas, vous êtes suspect, et donc je vous renie la juridiction. Et bien de même, les prêtres dans la fraternité doivent faire pareil avec Felet. Tu n'es plus notre chef. Vu les actes que tu as posés de trahison, tu n'es plus un chef digne de ce nom. Et tant que psychologiquement ils n'ont pas fait ça et encadré ça, ben, ils sont foutus. De même que la fraternité est foutue parce qu'elle considère François comme son chef, qui a pleine juridiction. C'est tout. Alors, ils considèrent leur appréciation comme la seule vraie, pour laquelle doit s'imposer par tous les moyens, même les moins légitimes. C'est des mots. Dieu ne peut pas bénir une telle initiative. Par contre, les mensonges de Menzingen, Dieu va les bénir. Hein. Ça, et les mensonges, il y en a. Hein. J'en ai arrêté, je pense toujours à un kick. J'en passerai en conclusion, mais ça explique pourquoi il n'y a pas d'espoir. Vous allez voir, comprendre. Dont les fruits mortifères se manifestent dès maintenant. Querelle interne, division supplémentaire au sein de nos communautés. C'est vrai que c'est intéressant. Division supplémentaire. Donc il y en a déjà. Et d'où elles viennent, celles-là? Les fidèles sont les premiers à en souffrir. Oui, mais la faute à qui? Comment les vocations peuvent germer dans une société religieuse qui se déchire? Ah oui, mais t'as le chef qui trahit. Ben, ça fout, oui, ça fout la pagaille, un chef qui trahit, ça c'est sûr. Il appartient à chacun de faire ça, faire face à cette nouvelle épreuve que traverse ce district en rejetant toute coopération à la diffusion de ce commentaire, à le tenir pour rien, à le mépriser comme chose insignifiante, bonne à être jetée au rebut. Et voilà, je confie aux prières, chers confrères, notre district doit faire face à une nouvelle tempête, partie malheureusement de nos rangs. Notre Seigneur nous aide à retrouver notre unité dans la vérité. Et il est là le problème. C'est qu'il n'y a plus de vérité. Donc c'est la pagaille, bah ouais. Et donc on doit se défendre. Je finis par quelques remarques. L'abbé Bouchacourt joignait un document pour rassurer les gens. Ça n'a pas dû les rassurer, les doyens, parce que le document était vraiment pourri. Donc on a déjà dit pas mal de choses dans ce que disait Menzingen, je passe. D'autre part, disait ce document, le recours à un ministre officiel représente quasiment toujours et partout l'occasion d'un grave danger pour la foi ou pour les mœurs. Tandis que le danger demeure, le devoir, lui aussi grave, d'éviter l'occasion de ce danger. Excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire. Voilà, c'est ça. Si le danger et l'injustice viennent à cesser, ne serait-ce que relativement et sur un point donné, il ne serait pas conforme à la prudence de ne pas tenir compte, et là je reviens, hein, j'insiste, on n'est pas sur un problème de prudence, on est sur un problème du combat de la foi. Je leur refuse la juridiction, ils démolissent la foi. Vous voyez, on ne doit pas enclencher une discussion sur est-ce que c'est prudent, c'est hors sujet. Ils n'ont pas la foi, ils la détruisent, ils la contredisent. Donc, qu'ils changent, et à ce moment-là, on en reparlera. C'est ce que disait Monseigneur, à la fin. Si de fait les autorités de la hiérarchie conciliaire envisagent de reconnaître auprès de la fraternité cette juridiction qui leur est due, et si cette reconnaissance s'accomplit dans un contexte tel que la foi et les mœurs sont hors de danger, il importe d'examiner avec soin cette possibilité. Voilà ce que disait le document. Et non. Il biaise le problème. Et le document disait encore ceci. La lettre sur les mariages ne s'inscrirait-elle pas en fait dans un processus conçu pour ramener la fraternité Saint-Pédis dans la pleine communion? Et n'exprimerait-elle pas une volonté de ralliement aux erreurs issues du Concile Vatican II? Donc il pose les questions qui sont les objections courantes. Dans l'intention des autorités romaines, oui, cela ne fait aucun doute, puisque le cardinal Müller le dit explicitement, avec les expressions qui viennent d'être citées. Cependant, cette intention reste extrinsèque à l'avantage que peut représenter pour la fraternité l'octroi d'une juridiction. Bon, relisez ça 100 fois, vous. Normalement, vous êtes vaccinés. Mais les confrères ne lisent plus, hein. La plupart ne lisent plus rien parce que ça leur fait mal au ventre, parce que ça les fait réfléchir.
Pour certains, ils ont été formés à ça.
Ensuite, je suis trop long, je continue. Force est de constater qu'en raison de la situation présente dans l'Église, les prêtres de la fraternité Saint-Pédis et ceux de la hiérarchie officielle n'ont pas la même orientation doctrinale, morale et pastorale. Donc là encore, ils sont bien d'accord de cela. Souvenez-vous, hein, Sieur Follet disait, en 2012, pour faire l'accord, s'il y a une chose sur laquelle on n'est pas d'accord, s'il y a une chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'on n'est pas d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prépare un accord. Et ça, vous voyez, cette pratique, c'est ça qui est grave, c'est que la fraternité pratique un modus d'agir moderniste et œcuméniste. Elle dit encore dans les principes qu'elle est contre, et elle le dit même sincèrement, mais son agir pratique est selon un mode moderniste. Et vous savez très bien que c'est l'agir qui a plus d'influence. L'agir va transformer la pensée. Donc on s'en fout de la signature, on s'en fout qu'elle n'est pas encore là. L'agir aujourd'hui de la fin des Saint-Pédis est moderniste. Ils sont dans le plus ou moins communion avec des gens qui n'ont pas la même pastorale, pas la même doctrine. Enfin, malgré toutes les nuances que nous devons apporter, il reste indéniable que la lettre de Müller est envisagée dans l'esprit des autorités romaines comme une étape vers la pleine communion. Et les supérieures fraternités, sans aucune contrepartie et sans remettre en cause la légitimité d'une juridiction de suppléance, ont prudemment jugé qu'il était légitime de tirer parti de cette initiative romaine. Et ils se croient plus malins, ils font de l'humour. Ils se croient les plus malins, ils croient qu'ils vont gagner. Ils ont déjà tout perdu. Ils ont déjà tout perdu. Le mal est fait. Ils ne refusent plus la communion avec une contrefaçon d'église, syncrétiste, pentecôtiste, etc. Ils ont déjà tout perdu. Ça, on l'a déjà vu. Mais s'il est possible pour un mariage pleinement conforme à la tradition de bénéficier sans aucune contrepartie mauvaise de l'aval canonique des autorités, c'est sans aucun doute un bienfait spirituel que de rassurer par là les consciences timorées des parents et des amis des futurs époux. C'est faux. Ils disent sans aucune contrepartie, c'est faux. Il y a une contrepartie. Et la contrepartie, c'est d'accepter la pleine légitimité de l'autorité à Rome. On disait à l'époque, pas d'accord pratique avant un accord doctrinal. Prêchez la foi. Condamnez les erreurs Vatican II. Nous ne sommes pas la même église. L'abbé Glaise le dit formellement, la religion Vatican II et la religion catholique sont deux religions formellement différentes. C'est Glaise qui le dit. Et alors, le clou du clou, hein, c'est la fin de ce document donné par l'abbé Bouchacourt pour calmer les doyens. Quant à savoir comment procéder en pratique pour régir face à l'octroi de ces faveurs, il faudra recourir aux supérieurs qui donneront les directives à suivre. Obéissance, obéissance, obéissance. À qui? À Feulet, qui a mis la société, qui a menti. Alors, je conclue sur ça. J'ai déjà dit 100 fois, mais peut-être que vous l'avez jamais entendu. Chapitre 2013, il y a de Jeanard, lit un document qui détruit toute la déclaration doctrinale de Monseigneur Feulet, hein, qui était le fondement de l'accord de 2012. Il n'en reste rien. C'est fait en recto verso. Chaque paragraphe de Feulet est détruit, est explosé. Mauvais, mauvais, nul, zéro, faux, mauvais, mauvais, mauvais. Silence de mort règne dans le chapitre. Plus personne sait que dire, quoi faire. Monseigneur Tissier dira que Monseigneur Feulet avait implicitement compris son erreur. Implicitement compris. Il n'y a rien eu d'explicite. Et puis là, se lève l'abbé Pagliarani, supérieur aujourd'hui d'Amérique du Sud du séminaire, qui se dit, cher confrère, on va quand même pas exiger une rétractation à notre supérieur, ce serait lui infliger une gifle humiliante. Faisons une déclaration commune à la fin du chapitre et repartons de l'avant. Et là, dit Tissier, ça revenait implicitement à une reconnaissance d'avoir fait un mauvais document, n'est-ce pas? Parce que Felet aurait pu dire, attendez, Fagarani, non, non, vous m'avez pas compris. J'ai dit ça et je le défends. Et je l'assume. Vous voyez, si quelqu'un détruit votre déclaration, un autre se lève en disant on va pas infliger une rétractation et que vous vous taisez, ça revient à quoi? À implicitement accepter le jugement. On est tous d'accord? C'est comme ça que Tissier l'a compris et que les autres l'ont compris. Un mois plus tard, le Corunum, bulletin officiel intérieur à Saint-Sulpice. Et là, il dit que Mgr Felet explique qu'au chapitre, des membres imminents de la société n'ont pas compris sa déclaration doctrinale qui était bonne, mais vu que des esprits n'ont pas compris, par grande bonté, il la met de côté. Donc, qui n'a pas compris, c'est De Jornat et c'est les autres, et il ne la retire pas, il ne la condamne pas, il la met de côté. Pour des raisons doctrinales? Non. Pour des raisons de prudence humaine, pour des raisons de vivre ensemble. Voilà, disons ça comme ça. Donc, c'est les autres qui ont tort, et lui, rien. J'appelle ça un mensonge. Heureusement, Monseigneur Forme, l'abbé Fort à l'époque, il était présent. Quand il a vu l'utilisation de ce mensonge et l'importance, il l'a fait exploser. Mais tous les membres du chapitre étaient là, ils le savent. L'abbé, lors du procès de Pinault, l'abbé Petrucci disait, mais je sais que Felet est un menteur, je lui ai écrit en privé. Mais on peut le dire ça en privé, c'est notre chef, on ne peut pas dire ça en public. Ouais, c'est ça. Bon, mais voyez, le problème, il est là dans la tête des confrères. Ils ont encore un mauvais chef, croient-ils. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient un traître. Et on fait la guerre à un traître. Voilà, donc je pense que ce qui est important, c'est mon dernier mot, c'est qu'on ne pose plus les vraies questions. Donc, et comme on pose des fausses questions, les réponses, peu importe quelles qu'elles soient, c'est la dialectique, ça n'aura aucune incidence, le Schmilblick avance et ça arrivera à sa fin. Voilà, j'arrête là ma causerie, et s'il y a des questions, eh bien maintenant je suis à votre disposition. Merci de votre attention.
Merci.